Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Nous avons le merveilleux privilège de passer notre temps dans ce cours spécial et d'apprendre comment étudier la Bible. Pour tout chrétien, en fait, pour chaque chrétien, il est réellement vital de savoir comment étudier la Bible, d'être soi-même capable de creuser dans la parole de Dieu, de glaner et d'extraire toutes les richesses qui s'y trouvent. Je pense souvent aux paroles de Jérémie, qui a déclaré dans Jérémie 15:16 « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » La parole de Dieu est quelque chose de formidable. Aucun chrétien ne devrait être inapte dans sa capacité à étudier la parole ou Dieu pour lui-même. Ainsi, dans les 4 sessions que nous avons ensemble, nous examinerons tout simplement comment étudier la Bible. Nous souhaiterions cependant prendre un petit élan sur ce thème, et je voudrais que nous parlions en premier de pourquoi il est important d'étudier la Bible. J'ai l'impression que ceci constitue une forme de motivation. Vous savez, si on se contente de dire de but en blanc, « Eh, nous devons étudier la Bible, et voici comment procéder », peut-être que vous ne serez pas très motivé. Je veux donc vous motiver quelque peu, et dans nos 2 premières sessions, nous parlerons de pourquoi il est important que nous étudions la Bible. Ensuite, nous prendrons un virage dans les 2 dernières pour véritablement saisir comment le faire. Walter Scott, un grand chrétien, était en train de mourir. Il dit à sa secrétaire, « Apportez-moi le livre. » Sa secrétaire regarda la bibliothèque qui se trouvait à l'extérieur du lieu où il était et vit des milliers de livres. Et elle revint dans la pièce et dit, « Docteur Scott, quel livre ?» Il dit, « Le livre, la Bible, l'unique livre pour un homme mourant. » J'aimerais ajouter à cela que la Bible n'est pas seulement l'unique livre qui importe pour un homme mourant, mais c'est le seul livre qui compte pour un homme vivant, parce qu'elle est la parole de vie, autant qu'elle constitue l'espérance dans la mort. Nous venons donc à la parole de Dieu avec un immense sentiment d'excitation et d'attente. Pour commencer, permettez-moi de partager avec vous dans cette session quelque chose au sujet de l'autorité de la parole de Dieu, et cela couvre véritablement le thème du pourquoi il est important d'étudier la Bible. Premièrement, laissez-moi dire ceci. Nous affirmons depuis le départ que l'Écriture constitue la parole de Dieu. Ce n'est pas l'opinion d'un homme. Ce n'est pas la philosophie d'un homme. Ce ne sont pas les idées d'un individu. Ce n'est pas le résultat des sondages des meilleures pensées, des meilleurs hommes qui soient. C'est la parole de Dieu. Et en tant que telle, il y a un certain nombre de choses dont nous devons prendre conscience à son sujet. Premièrement, elle est infaillible. Dans sa globalité, la Bible ne comporte aucune erreur. Dans ses manuscrits d'origine, elle est sans faute. Dans Psaume 19:8, la Bible dit ceci d'elle-même. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle est sans défaut. En fait, elle doit l'être, puisque Dieu, qui est sans défaut, en est l'auteur. Récemment, il m'a été demandé de rédiger un document de recherche pour un certain congrès qui aura lieu dans notre pays, et il m'a été demandé d'écrire un papier sur le thème de l'autorité et de l'inhérence de la Bible. Et le véritable problème du papier était celui-ci. Si Dieu a écrit la Bible, et si Dieu constitue l'autorité suprême, et si Dieu dans son caractère est sans défaut, alors la Bible est sans défaut et constitue l'autorité ultime. Vous voyez, le fait que Dieu soit parfait exige que le manuscrit original, le don original de la parole de Dieu, soit en lui-même, et de lui-même également parfait. Nous disons donc, pour commencer, que la Bible est infaillible, et que la première raison pour laquelle il faut l'étudier est que c'est l'unique livre qui ne commet jamais d'erreur. Tout ce qu'elle dit est vrai. Non seulement elle est infaillible dans sa globalité, mais il y a un deuxième terme que nous employons pour décrire la Bible. Il s'agit du mot inhérent. Non seulement infaillible au total, mais inhérente dans ses diverses parties. Dans Proverbe 30:5-6, il est dit ceci. « Toute parole de Dieu est éprouvée. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Chaque parole de Dieu est pure. Non seulement la Bible constitue la parole de Dieu infaillible dans sa totalité, mais également dans ses composantes, dans la mesure où chaque parole est la vérité de Dieu. J'ajouterai un autre terme. La Bible n'est pas seulement infaillible et inhérente, mais elle est également complète. Rien ne doit y être ajouté. Cela pourrait peut-être surprendre certains. Il y a des gens aujourd'hui qui croient que nous devrions ajouter des choses à la Bible. Il existe un certain type de combinaison philosophique et théologique connue sous le nom de néo-orthodoxie. Et ils nous disent que la Bible était tout simplement un commentaire à son époque sur l'expérience spirituelle de l'homme, tandis qu'aujourd'hui, l'être humain fait plusieurs expériences spirituelles et aurait besoin d'un autre commentaire. En fait, je lisais un écrivain récemment qui a dit que nous avons besoin d'une Bible qui serait écrite aujourd'hui, tout comme celle qui se trouve entre nos mains a été écrite, parce que nous avons besoin que quelqu'un commente ce que Dieu fait actuellement. Par conséquent, la Bible continue d'être rédigée. Ce même auteur a affirmé que lorsque Tom et Marie se lèvent dans votre église et disent « Ainsi parle l'Éternel », ils sont autant inspirés qu'Ésaïe et Jérémie, ou n'importe quel autre prophète. En d'autres termes, la Bible n'est pas complète. C'est une pensée philosophique et théologique actuelle. Mais à la fin du dernier livre de la Bible, le livre d'Apocalypse, nous lisons ces paroles. « Je le déclare à quiconque. » Apocalypse 22:18. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. La Bible se termine avec une mise en garde. Elle s'achève avec l'avertissement de ne rien enlever et de ne rien ajouter. C'est un témoignage de son exhaustivité. Elle est infaillible dans sa totalité. Elle est inhérente dans ses composantes. Elle ne fait jamais d'erreur dans sa présentation globale, dans sa présentation la plus divisible, et elle est complète. À présent, nous devons ajouter un quatrième terme au sujet de la Bible. Elle constitue une autorité. Elle est parfaite et complète. Ensuite, elle constitue le dernier mot. Elle est l'autorité finale. Ésaïe 1:2 déclare ceci. « Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. Quand Dieu parle, tout le monde écoute, parce que son autorité constitue l'autorité finale. La Bible exige l'obéissance. La Bible n'est pas un livre à débattre. Et par là, je ne signifie pas que nous ne devrions pas discuter de ses implications, et des applications, et des significations. Je veux dire qu'on ne devrait pas discuter si elle est vraie ou pas. Elle constitue une autorité. Elle affirme et assume que cela est vrai. Dans Jean 8:31, il y a ce petit incident où Jésus est confronté aux dirigeants juifs. Et tandis que Jésus fait face à ses dirigeants, un petit dialogue a lieu. Il y a bien sûr d'autres personnes présentes. Et il est dit dans le texte que plusieurs crurent en lui. Il ne fait aucun doute que certains d'entre eux étaient des dirigeants. Il leur a cependant dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Autrement dit, il exigeait une réponse à sa vérité. Il exigeait une réponse à sa parole. Elle constitue une autorité. Dans Galates 3:10, il est dit ceci. « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Étonnant. « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans ce livre. » C'est une formidable revendication d'autorité absolue. Dans Jacques 2:9, nous lisons ceci. « Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la loi, comme des transgresseurs. » En d'autres termes, violer la Bible à un quelconque endroit revient à briser la loi de Dieu. Elle constitue une autorité dans chacune de ses portions. Eh bien, infaillible, inhérente, complète, faisant autorité. Nous devons ajouter un autre mot. Il s'agit d'un grand mot. La Bible est suffisante. Elle est suffisante. La Bible suffit à tout ce qui pourrait être nécessaire dans le cœur de l'homme. Dans 2 Timothée 3:15, il y a un grand mot. Paul ici dit à Timothée, « Dès ton enfance, Timothée, tu connais les saintes lettres, observées à présent, qui peuvent te rendre sage, à salut, par la foi en Jésus-Christ. Maintenant et tout d'abord, elle est suffisante pour le salut. La Bible est capable de vous rendre sage, en vue du salut. Vous pouvez vous poser cette question, qu'est-ce qui a le plus d'importance que le salut ? Rien. La plus grande réalité de l'univers, la Bible, et ce qui nous rend sages à salut. Mais en plus, le verset 16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. » Maintenant observez. Pour enseigner, c'est-à-dire la doctrine, les principes de la sagesse, les standards divins, les vérités divines, pour convaincre, cela signifie que vous êtes capable d'aller vers quelqu'un et dire « Hé homme, vous êtes sorti des rangs, vous ne pouvez pas vous comporter ainsi, il existe un standard, et vous n'êtes pas en train de vous y conformer. » Elle est également utile pour corriger ce qui dit à cet individu que vous venez juste de reprendre « Maintenant, ne faites pas ça. » Faites ceci, voilà le nouveau chemin. Vous enseignez, vous reprenez, vous présentez une voie corrigée et par ailleurs, cela est utile pour instruire dans la justice. Vous indiquez la nouvelle voie et leur montrez comment y marcher. Un livre fantastique, la Bible. Elle peut prendre une personne qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas sauvée, et la sauver. Et ensuite elle peut l'enseigner. Et puis elle la reprendra si elle agit mal. Elle lui indiquera ce qu'il convient de faire. Et lui montrera comment marcher sur cette bonne voie. Et le résultat se trouve au verset 17, « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » L'incroyable réalité de la Bible est qu'elle est suffisante pour accomplir tout le travail. C'est un produit qui fait tout le travail. La Bible est infaillible, inhérente, complète. Elle fait autorité, et elle est suffisante. Dans Romains chapitre 15, et je ne puis m'empêcher d'ajouter ce seul passage à la pensée que nous vous avons donnée. Dans Romains 15, 4, nous lisons ceci. « Or, tout ce qui a été écrit d'avance, et bien sûr cela fait allusion à la Bible, or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. La Bible, une fois de plus, constitue la source de la patience, et de la consolation, et elle nous donne finalement de l'espérance, maintenant et pour toujours, un livre formidable. Je pense également à Jacques 1, 25, et ceci est véritablement un passage extraordinaire. Il est dit, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et il s'agit de l'Écriture, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » N'est-ce pas merveilleux? Vous savez, lorsque vous la lisez et la mettez en pratique, vous êtes béni. À présent, revenant au verset 21, Jacques dit que si nous recevons avec douceur la parole qui a été plantée en nous, elle est capable de sauver vos âmes. Le texte grec signifie littéralement « votre vie ». En d'autres mots, elle sauvera votre vie si vous recevez la parole de Dieu. Je pense que par là, qu'il veut dire qu'elle vous donnera la vie la plus pleine, la plus abondante, la plus riche que l'on puisse imaginer. Et il est également possible pour un chrétien qui n'obéit pas à la parole de Dieu de perdre sa vie, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 11. Certains de ces chrétiens à Corinthe ont violé le repas du Seigneur, et il les a rappelés à lui. Il a donc dit, « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Ananias et Saphira ont désobéi au commandement de Dieu. » Et sont tombés raides morts en présence de toute l'Église en acte 5. Ainsi Jacques est en train de dire, « Regardez, si vous recevez la parole qui a été plantée en vous, et que vous y obéissez et persévérez en cela, elle a une manière extraordinaire de vous rendre parfait, de vous bénir, et même de sauver votre vie. Toutes ces choses sont donc vraies au sujet de la parole de Dieu. Permettez-moi de vous donner deux éléments supplémentaires. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est efficace. Écoutez les paroles d'Ésaïe 55:11. Il est dit ceci. « Ainsi en est-il de ma parole. C'est ainsi que ma parole agira, dit-il, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. N'est-ce pas génial? La parole de Dieu est efficace. Vous savez, l'une des choses extraordinaires qu'il y a à être un enseignant de la parole de Dieu, c'est de savoir qu'elle fera ce qu'elle dit qu'elle fera. Vous savez, souvent je m'interroge sur le vendeur à domicile qui entre et tente de faire une démonstration de son produit sans y parvenir. Vous savez, je pense toujours à cette dame qui vivait en campagne et le vendeur d'aspirateurs est arrivé et il est venu à la porte et se tenait là avec un business de forte pression. Et il dit, « Madame, il déclare, j'ai le produit le plus incroyable que vous n'ayez jamais vu. Cet aspirateur dévore tout. En fait, si je ne le contrôle pas, il sera capable d'aspirer votre tapis. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il déclare « Madame, j'aimerais vous faire une démonstration ». Il s'est donc dirigé vers la cheminée et a jeté des cendres au milieu du tapis. Il avait un sac plein de trucs qu'il a versé sur le tapis. Il déclare « Madame, j'aimerais que vous observiez ce produit. Il va absolument tout aspirer ». Et elle se tenait là, sidérée. Et maintenant, il s'est arrêté suffisamment longtemps pour lui dire « Madame, si ça n'aspire absolument pas tout ceci, eh bien, je me chargerai de le manger à la cuillère. » Et elle l'a regardé droit dans les yeux et a dit « Eh bien, monsieur, commencez à manger. Nous n'avons pas d'électricité. » C'est une situation assez embarrassante, n'est-ce pas? Se retrouver coincé dans une situation où votre produit ne va pas fonctionner. Cela n'arrive jamais avec la Bible. Elle est toujours efficace. Elle fait toujours exactement ce qu'elle dit qu'elle fera. Une réalité extraordinaire au sujet de l'Écriture. Dans 1 Thessaloniciens 5, nous lisons ceci. Il s'agit d'un puissant verset sur l'efficacité de l'Écriture. Notre Évangile, ne nous ayant pas été prêché en paroles seulement. Vous savez que lorsque vous entendez la parole de Dieu, ce ne sont pas que des mots. Il poursuit en disant, « Mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. » En d'autres termes, lorsque la parole sort, elle a de la puissance, elle a le Saint-Esprit, et vous pouvez avoir cette assurance qu'elle fera tout ce qu'elle dit qu'elle fera, une formidable vérité. Qu'avons donc nous dit pour commencer? Que la parole de Dieu est infaillible dans sa globalité, inhérente dans ses diverses parties, complète au point où rien ne doit y être enlevé ni y être ajouté. Elle constitue une autorité, ce qui fait que tout ce qu'elle peut dire est absolument vrai. Exige notre obéissance. Elle est suffisante, ce qui fait qu'elle est capable de faire de nous et pour nous tout ce dont nous avons besoin, et elle est efficace. Elle fera exactement ce qu'elle dit qu'elle fera. Un dernier mot. La parole de Dieu, la Bible, est déterminante. Elle est déterminante. Formulée autrement. La réponse que vous faites à la parole de Dieu déterminera votre vie et votre éternité en réalité. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Avez-vous entendu cela? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. C'est au pluriel dans ce passage. Vous n'écoutez pas, dit Jésus, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Autrement dit, cela constitue un critère pour savoir si un individu est de Dieu ou s'il n'est pas de Dieu, suivant qu'il écoute ou non la parole de Dieu. Il existe un passage très décisif dans 1 Corinthiens qui ressort bien cela. 1 Corinthiens 2:9. Il est dit: ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. L'homme n'aurait jamais pu concevoir ce que Dieu avait préparé. L'homme n'aurait jamais pu concevoir le règne de Dieu. L'homme ne pouvait jamais imaginer qu'il en ferait partie. L'homme n'aurait jamais pu concevoir dans sa propre humanité, dans sa propre pensée humaine, dans ses propres schémas de logique, tout ce que Dieu a préparé pour lui. Mais le verset 10 se déclare. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé, par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Mais l'homme naturel, dit le verset 14, n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il existe deux catégories de personnes, celles qui reçoivent les choses de Dieu et celles qui ne le font pas. Les personnes qui sont capables de recevoir et celles qui ne le peuvent pas. Les gens qui ne croient pas, ils ne peuvent pas comprendre, ils n'ont pas le Saint-Esprit. La pensée humaine n'est pas capable de traiter cela. Les gens qui connaissent Dieu, eux, ont le Saint-Esprit. Ils reçoivent la parole de Dieu. Vous voyez, c'est un critère d'identification. Ces gens qui reçoivent la parole de Dieu indiquent par le fait même de leur compréhension de la parole qu'ils ont le Saint-Esprit, et cela constitue une preuve qu'ils sont croyants. En voyageant par avion aujourd'hui, j'ai pu parler à un homme qui n'a cessé d'admettre qu'il ne comprenait pas la Bible. Je ne lui ai pas vraiment dit cela avec beaucoup de mots. Mais je lui ai fait comprendre que nous ne nous attendions pas à ce qu'il comprenne la Bible. Il ne disposait pas de la seule chose nécessaire pour la comprendre, la vie de Dieu dans son âme, à travers la présence du Saint-Esprit. Ainsi, la parole de Dieu nous est simplement présentée dans sa beauté, sa gloire et ses capacités dans ses simples mots. Elle est infaillible, inhérente, complète. Elle fait autorité, est suffisante, efficace et déterminante. Maintenant, quelqu'un pourrait s'amener et dire « Eh bien, c'est vraiment génial. J'entends la Bible revendiquer cela d'elle-même. C'est super. Et si elle est toutes ces choses, alors il faut absolument que je me joigne à ça. Je veux dire que si tout cela est réellement vrai, alors il faut absolument que j'adhère à ce truc. Il faut absolument que je trouve tout ce qu'il y a au sujet de ces réalités et principes inhérents, infaillibles, complets, suffisants. Mais puis-je être vraiment certain que ce soit vrai? Vous savez, c'est drôle. Nous vivons dans un monde où les gens ne répondent pas vraiment très bien à l'autorité. En fait, notre monde tout entier se bat contre l'autorité. Nous voulons nier l'autorité du foyer. Il y a actuellement un combat pour renier l'autorité de l'homme dans notre société. Les femmes veulent se battre contre cela, et peut-être que l'autorité a souvent été oppressive, et qu'il faudrait un tout petit peu équilibrer les choses. Il y a une bataille parmi les jeunes des collèges, des lycées et des campus universitaires pour s'ériger contre l'administration. Il y a une espèce de sentiment anti-gouvernemental dans certains cas. Il y a même une forme de rébellion contre la police et tout ce qui constitue une autorité. C'est réellement comme si nous voulions nous en débarrasser. Il y a une espèce d'individualisme rude. Chacun est son propre Dieu. Vous savez, nous sommes de retour à Invictus. Je suis maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Et toutes ces choses. Et nous n'aimons pas vraiment répondre à l'autorité. Ainsi, quand vous arrivez, dites à quelqu'un, « Vous savez, j'aimerais vous dire que la Bible constitue l'autorité absolue. Elle est absolument suffisante et efficace. Et toutes ces choses. » Il dit, « Eh bien, comment savoir? Je veux dire qu'il faut que vous me le prouviez pour que je l'accepte. » Par conséquent, comment définissons-nous réellement? Ou alors, comment pouvons-nous déterminer que la Bible est vraie? Eh bien, j'ai toujours pensé, et c'est une sorte de parenthèse qui dure une minute, mais j'ai toujours pensé qu'il existe fondamentalement 5 domaines de preuve. Bien sûr, en fin de compte, on ne peut pas vraiment prouver que la Bible est vraie, parce qu'il n'est pas possible de sortir de notre petit monde en rampant pour rencontrer Dieu face à face et dire « Hé, Dieu, accorde-moi le scoop en direct, maintenant que je te vois. Je te contemple. Dis-moi tout simplement, est-ce vrai ? Il faut le saisir par la foi, en fin de compte. Mais il existe assurément des éléments convaincants qui assainissent notre foi. Et il existe 2 domaines de preuve. Le premier constitue l'expérience. L'une des premières raisons pour lesquelles je crois que la Bible est vraie est qu'elle nous fournit l'expérience qu'elle revendique et qu'elle nous donnera. Par exemple, la Bible déclare que Dieu pardonnera votre péché. Je le crois. J'ai accepté son pardon. Et vous savez quoi? Il l'a fait. Vous dites, comment le savez-vous? J'ai un certain sentiment de liberté à l'égard de la culpabilité. J'ai le sentiment d'être pardonné. Vous savez, la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis venu à Jésus-Christ un jour, et vous savez ce qui s'est passé? Toutes choses sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles, et je l'ai expérimenté. La Bible transforme véritablement les vies. Quelqu'un a dit qu'une Bible qui tombe en lambeaux appartient toujours à quelqu'un dont ce n'est pas du tout le cas. Et j'imagine que cela doit être vrai, parce que la Bible est vraiment capable de restaurer des vies. Des millions de personnes à travers le monde sont des preuves vivantes de la véracité de la Bible. Elles l'ont expérimentée. Difficile de discuter, mais vous savez quoi? Bien que cela constitue un argument solide dans un certain sens, c'est aussi un point faible. D'autre part, parce que vous savez, si on commence à tout baser sur l'expérience, on va se retrouver nez à nez avec certaines personnes qui ont fait des expériences assez formidables. Vous savez, l'ivrogne qui voit des éléphants roses, alors que ce n'est pas vraiment le cas, et le musulman, et le bouddhiste, et le gars qui est adepte du mouvement Hare Krishna, et le type qui s'assoit sous l'arbre et contemple son nombril ou quoi que ce soit d'autre, ils vont tous vivre une expérience. Et si on base tout sur l'expérience, c'est qu'on est mal parti. Je le dis donc dans un seul sens, et des 5, c'est assurément le moyen le moins solide, bien que cela reste une évidence pour certains. Je pense qu'une deuxième chose qui prouve la validité de la Bible est la science. Les gens disent, eh bien la Bible, vous savez, n'est pas exactement un livre de science, et elle est scientifiquement incorrecte. La Bible n'emploie guère un langage scientifique, et pourtant, vous savez, les gens le disent souvent. Ils disent, et que dire lorsque l'Ancien Testament affirme que le soleil est resté immobile? Nous savons bien à présent que le soleil n'est pas resté sans bouger. Ce qui s'est passé, s'il s'est passé quoi que ce soit, c'est que la Terre a interrompu sa révolution, et on a eu l'impression que le soleil s'était immobilisé. Ils disent, vous savez, en ces temps anciens, ils pensaient que le soleil tournait autour de la Terre, au lieu du contraire. Voilà un exemple type d'impair biblique. Oui, mais voyez-vous, le problème, c'est que ces gens n'analysaient pas cela de manière scientifique. Ils ne le faisaient pas. Ils regardaient et voyaient ce qui semblait se produire. Vous faites pareil. Vous vous levez le matin et vous regardez à l'est, et vous ne dites pas « Oh, quelle merveilleuse révolution de la Terre !» Il ne s'agit pas d'une révolution terrestre, c'est un lever de soleil. Vous comprenez ce que vous dites. Vous regardez à l'ouest et vous dites « Quelle merveilleuse Terre en révolution !» Non, c'est un coucher de soleil. Quelqu'un a dit qu'on pouvait le formuler de cette manière. Lorsque quelqu'un vous propose de vous resservir lors d'un dîner, vous pourriez dire « Eh bien, la satiété gastronomique m'avertit que je suis parvenu au point de la déglutition qui est compatible avec l'intégrité diététique. » Ou alors vous pourriez dire « Non merci, j'ai assez mangé. » Vous voyez, on n'a pas besoin de donner une réponse scientifique à tout. Quelquefois, l'observation simple suffit. La Bible dit un certain nombre de choses qui découlent de l'observation humaine. Mais d'un autre côté, chaque fois que la Bible aborde un principe scientifique, elle est on ne peut plus précise. Elle a raison. Elle est exacte. Au 55e chapitre d'Ésaïe, et dans ce cours particulier, il ne s'agit que d'une pensée mise en introduction pour pouvoir développer tout le concept. Cependant, dans Ésaïe 55:10, écoutez ceci. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. » Avez-vous entendu cela? C'est Ésaïe, des siècles bien avant que le cycle hydrologique n'ait été découvert, qui affirme que la pluie et la neige tombent et ne remontent pas jusqu'à ce qu'elles aient arrosé la terre. Savez-vous que c'est seulement dans les temps modernes que l'hydrologie a été comprise? Et ce qui se passe, c'est que la pluie tombe sur le sol, la neige tombe sur le sol, elle arrose le sol, elle s'écoule sous forme de ruisseaux vers les rivières qui se jettent dans la mer, et de la mer, elle retourne à nouveau dans les nuages, est emmenée au-dessus de la terre et tombe à nouveau. Ésaïe 55:10 a établi le cycle hydrologique qui est toujours constant. Vous dites, je crois que même un porc aveugle trouve un gland un jour ou l'autre. Il est possible que la chance ait souri à Ésaïe sur ce coup-là. Eh bien, ce serait effectivement une hypothèse envisageable si le même discours n'était pas repris à plusieurs occasions dans d'autres portions de la Bible au sujet du seul et même cycle hydrologique. Je pensais notamment à Job 36:27. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie, les nuages la laissent couler, ils la répandent sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente? On retrouve à nouveau ici la discussion sur la pluie. Vous pouvez encore comparer cela au psaume 135:7, et nous n'examinons que quelques exemples. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit des éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Ici encore une discussion sur la merveilleuse séquence de la pluie et des vapeurs qui remontent de la mer pour à nouveau planter l'eau dans les nuages. La Bible parle des orbites des corps célestes. Dans Jérémie, chapitre 31, elle en parle. Dans Psaume 19, elle en parle. J'ai vraiment le sentiment qu'en entrant dans la Bible, on trouve des choses extraordinaires au sujet de la science qui nous indique que la Bible est vraie. Vous n'avez pas vraiment à avoir honte de la Bible à une quelconque occasion. Vous ne pouvez jamais vous buter un problème dans la Bible que vous n'êtes pas en mesure de résoudre par l'un de ces deux moyens. En examinant à travers le reste de la Bible, en comprenant comment interpréter cela, ou alors en prenant conscience que vous ne parviendrez jamais à comprendre cela jusqu'à ce que vous rencontriez Dieu. Parce qu'il y a effectivement des choses que nous ne comprenons pas et que nous ne connaissons pas. Cependant, la vérité se trouve là. Vous ne vous retrouverez jamais nez à nez avec une erreur dans l'écriture, pas même sur le plan scientifique. Il y a, par exemple, au sein de la science de la géologie, une étude intéressante que l'on appelle l'isostasie, assez nouvelle en réalité. Il s'agit de l'étude de l'équilibre de la Terre et l'idée de dire que des poids égaux sont nécessaires pour soutenir des poids égaux, ce qui fait que la masse terrestre devrait, de manière égale, être supportée par la masse des eaux. Et pourtant, ils n'ont pas vraiment découvert quelque chose de si nouveau, puisqu'en retournant voir le bon vieil Ésaïe, une fois de plus, qui n'était pas du tout un scientifique, mais un simple prophète de Dieu. Dans 40:12, il est dit que Dieu a mesuré les eaux dans le creux de sa main. Il a pris les dimensions des cieux avec la paume. Il a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance. Dieu sait tout au sujet de l'isostasie. Il sait tout au sujet de ce genre de choses. C'est quelque chose d'incroyable. Quand on prend une Bible et qu'on commence à l'étudier, y compris sur le plan scientifique. Je pense à Herbert Spencer, qui est mort en 1903. En parlant de lui, il a été dit « Eh bien, Herbert Spencer a découvert ce qu'il y a de plus grand au sujet de la catégorisation de tout ce qui existe dans l'environnement de l'univers. Il a dit que tout ce qui existe pouvait être classé dans ces catégories. Temps, force, action, espace, matière. 5 catégories scientifiques classiques. Temps, force, action, espace, matière. Herbert Spencer a dit que tout se tient dans ces catégories, et le monde l'a acclamé en tant que grand scientifique, un grand homme de découverte. Voulez-vous savoir quelque chose? Tous les 5 se retrouvent dans le premier verset de la Bible. Au commencement, voilà le temps. Dieu, c'est la force. Créa, c'est l'action. Les cieux, il s'agit de l'espace. Et la terre, c'est la matière. Quand la Bible parle, elle parle avec précision. La science constitue donc un bon moyen de démontrer l'autorité et la validité de l'écriture. Il y a un troisième point à notre petit groupe de 5 points. Premièrement, l'expérience. Ensuite, la science. Et puis, Christ. La vie même du Christ est une formidable preuve de la véracité de la Bible. Et je le dis pour des tas de raisons. Mais il n'y en a qu'une que je vais vous proposer pour l'instant. Et c'est celle-ci. Jésus croyait en l'autorité de la Bible. Jésus a déclaré « Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Il existe un quatrième domaine de preuve lorsqu'on considère la Bible, et il s'agit du domaine des miracles. Je dis que la Bible est un livre divin parce qu'elle comporte des miracles, et c'est la preuve que Dieu est impliqué. Il s'agit forcément d'un livre surnaturel, étant donné toute l'activité surnaturelle qui s'y trouve. Vous dites, eh bien, comment savez-vous que tous ces miracles sont vrais? Eh bien, ils sont tous mis en évidence ici. Il y a ici toutes les informations qui permettent de les soutenir. Par exemple, lorsque Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, plus de 500 personnes l'ont vu après sa résurrection. C'est assez pour convaincre un jury. La nature miraculeuse même de la Bible parle de Dieu. Donc, l'expérience et la science et le témoignage du Christ et les miracles de la Bible. Et ensuite, le cinquième point, la prophétie. Il n'y a aucun moyen d'expliquer le fait que la Bible précise des choses qui vont se produire dans l'histoire, à moins de voir Dieu comme son auteur. Je pense à Peter Stoner dans son petit livre « Science Speaks », « La science parle », où il dit « Contentez-vous de prendre quelques prophéties ». Et il en choisit 3 ou 4 prophéties de l'Ancien Testament. C'est un scientifique qui traite de la science de la probabilité mathématique. Et il dit « Si j'additionne les probabilités que ces 3 ou 4 choses se produisent de manière accidentelle, cela ferait une chance sur 2 quintillions qu'un tel accident puisse se produire, et pourtant chaque détail s'est réalisé. » Il a dit aussi « Une chance sur 2 quintillions ressemblerait à ça. Ce serait un peu comme recouvrir l'État du Texas d'une couche de dollars en argent de 35 pieds de profondeur, environ 10,668 mètres. Marquer un X sur une des pièces » et demander à un aveugle de la retrouver dès le premier essai. Il dispose d'une chance sur 2 quintillions de tomber sur la pièce qui est marquée d'un X. C'est la probabilité qui existe, d'après les mathématiques de probabilité, pour que ces 4 prophéties se réalisent dans leurs détails spécifiques de manière accidentelle. C'est incroyable. Lorsque la Bible parle de manière prophétique, elle a raison. Littéralement, des centaines de prophéties accomplies. C'est la sainte parole de Dieu. Quelque chose de formidable. Et le chrétien, qui ne l'aborde jamais, avec un engagement sérieux pour l'étudier, se prive d'une bénédiction grandiose. Je dois vous dire, pour tout ce qui concerne ma vie, et j'ai des tas de choses heureuses dans ma vie. J'ai une merveilleuse épouse que j'aime beaucoup. J'ai 4 superbes enfants qui sont loin d'être parfaits, et c'est peut-être pour cette raison que je les aime autant. Ils ne m'intimident pas beaucoup. Et nous passons un moment merveilleux, et ma vie est riche. J'ai une formidable église, où je suis capable d'enseigner, et des personnes précieuses que j'aime tellement. Et tout cela est enrichissant, amusant même. Mais ce que j'aime le plus dans la vie, c'est la parole de Dieu. Vous savez, elle m'amène directement dans la présence de Dieu. Et c'est sensationnel. Et vous savez quoi? Plus je vais en profondeur dans mon étude de la parole de Dieu, et plus je suis enthousiaste. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques pensées. Je voudrais vous indiquer 6 domaines qui apparaissent comme des bénéfices majeurs de l'étude de la Bible. Et vous devez comprendre cela dès le départ, étant donné que ce sont ces choses qui vont vous motiver. Avant de vous montrer comment étudier, j'aimerais vous montrer pourquoi vous avez besoin d'étudier, et j'espère qu'au moment où nous terminerons ceci, vous aurez hâte que ce cours s'achève pour que vous puissiez rentrer chez vous et étudier votre Bible. Mais permettez-moi de vous donner 6 domaines. Nous allons prendre un bon départ à ce sujet dans notre étude cette fois. Pour commencer, nous devons étudier la Bible parce que la Bible est source de vérité, d'accord? La Bible constitue la source de la vérité. Jean 17:17, Jésus a dit, en priant le Père, « Ta parole est la vérité », une formidable déclaration. « Ta parole est la vérité ». Brave Jean, vous rendez-vous compte de ce que cela signifie que d'avoir la vérité? J'ai des gens qui me disent tout le temps, tandis que je les confronte à la question de Jésus-Christ, « Eh bien, vous savez, je ne sais pas ce qu'est la vérité ». Pilate est parvenu à un point de sa vie où il a regardé à Jésus et a dit « Qu'est-ce que la vérité ?» C'était un cynique. « Qu'est-ce que la vérité ? Ne me donnez pas cette absurdité de vérité.
Cela fait beaucoup trop longtemps que je cours après ce truc.
Qu'est-ce que la vérité ? J'ai lu quelque part que près de 3000 pages d'ouvrages sont imprimées toutes les 60 secondes dans notre société. Nous balançons l'information, des tonnes d'informations. Savez-vous que les livres ne fonctionnent plus ? Ils prennent trop de place. Nous ne sommes même plus capables de stocker l'information que nous avons, ce qui fait que nous disposons de microfilms et de microfiches, et les données sont conservées dans de minuscules petites choses. En fait, j'ai vu une toute petite puce qui contient la totalité des 66 livres de la Bible. Chacun des mots de la Bible s'y trouve, et c'est juste une minuscule petite chose. Et nous travaillons sur ce genre de choses, parce que nous devons réduire les facteurs de stockage pour pouvoir conserver toute cette information. Je ne suis pas sûr que nous devrions prendre la peine d'en conserver la majeure partie cependant. Mais nous cherchons quand même à le faire. Il y en a trop. En fait, j'ai lu que certaines personnes trouvaient que le microfilm était trop volumineux. Pouvez-vous imaginer la totalité de la Bible dans un truc de taille minuscule? Et certains trouvent cela trop volumineux. Nous ne pouvons pas conserver cela. Et ils développent donc le stockage laser. J'en ai vu une démonstration. D'une certaine manière, ils stockent l'information dans un minuscule cristal et chaque facette du cristal contient de l'information. Ils lancent un rayon laser sur le cristal exactement là où ils le souhaitent et cela fait apparaître les mots qu'ils choisissent sur un écran afin de leur permettre de sauvegarder les données sur des cristaux. C'est également trop encombrant et ils ont à présent développé ce qu'on appelle le stockage moléculaire. Et il paraît que très bientôt, ils seront capables de stocker tout le contenu de la bibliothèque du Congrès sur un objet de la taille d'un cube de sucre. Incroyable! C'est beaucoup d'informations. Et nous ne souffrons pas d'un manque d'informations, braves gens. Nous disposons de beaucoup d'informations, et encore plus de désinformations. À l'écriture des livres, la Bible déclare qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Les livres et davantage de livres. Et même la Bible affirme que l'homme est constamment en train d'apprendre. Le problème qui se pose, cependant, c'est qu'ils ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. N'est-ce pas épouvantable? Savez-vous pourquoi? Je me souviens, quand j'étais en cours d'algèbre, j'étais au collège, à l'époque, et je pensais que l'algèbre était vraiment difficile, et j'avais beaucoup de mal avec l'algèbre, et vous savez, je rentrais à la maison et travaillais sur un de ces problèmes d'algèbre ridicules quand j'étais en 5e. J'y travaillais depuis des heures. Je suis retourné à l'école le lendemain sans avoir réussi à trouver la réponse. J'avais interrogé mon père, mais il ne savait pas non plus.
il n'en savait pas plus que moi, ce qui fait que j'étais incapable de trouver la solution. C'était la chose la plus frustrante du monde pour moi. Eh bien, vous savez, vous avez déjà été confronté à ce problème. Vous avez déjà travaillé sur quelque chose sans parvenir à le résoudre. Vous ne trouvez jamais la réponse. C'est ainsi avec les gens du monde. Ils lisent et ils étudient et ils réfléchissent, et ils raisonnent, et ils écoutent, et ils parlent, et ils interagissent, et ils ne parviennent jamais à la vérité, et ils ne se positionnent sur rien, et la frustration est écrasante. Je me souviens d'avoir parlé à un type qui s'était tout simplement coupé de la société. Il s'en est échappé pour se réfugier dans la drogue. Il était diplômé de l'université de Boston, et je lui ai dit « Qu'est-ce qui vous a poussé à agir ainsi ?» Il vivait dans les bois, dormant dans une petite tente. C'était vraiment quelque chose de triste à voir, et il était dans les vapes à cause de la drogue. Alors je lui ai dit « Que faites-vous ?» Il a répondu « Eh bien, vous savez, j'ai cherché la réponse pendant si longtemps. J'ai finalement décidé de me foutre en l'air avec la drogue, au moins maintenant. Je n'ai même plus besoin de me poser des questions. C'est le désespoir de ne jamais connaître la vérité. Vous savez, Kafka écrivait sur l'éducation. Il a donné une belle illustration. Il a imaginé une ville bombardée, où tout était en décombres, entièrement bombardée. Et bien sûr, partout, il y avait des gens qui saignaient, ceux qui mouraient dans la fumée et le feu qui couvrait tout, et au milieu de cette ville bombardée se trouvait une tour d'ivoire qui perçait le ciel d'un blanc immaculé et qui n'avait pas été touchée par la bombe. Une silhouette solitaire se fraye un chemin à travers les décombres. Elle arrive à ce grand et haut bâtiment. Elle entre, monte jusqu'au dernier étage, traverse le hall, et au fond du hall se trouve une petite lumière. Et elle parcourt les ténèbres jusqu'à ce qu'elle parvienne à la lumière. Et elle tourne à droite et entre dans une salle de bain. Elle entre dans la salle de bain, et là, assis dans la salle de bain, se trouve un type qui tient une canne à pêche, et il pêche dans la baignoire. Et l'étranger solitaire lui dit « Hé, monsieur, que faites-vous ? » Il dit « Je suis en train de pêcher. » Il regarde dans la baignoire et dit « Il n'y a pas de poisson dans la baignoire, et il n'y a pas d'eau dans la baignoire. » Et le type dit « Je sais. » Et il continue de pêcher. Et Kafka a dit « C'est l'enseignement supérieur. » Voyez-vous, l'homme a perdu la vérité. Il l'a perdue. Et vous savez quoi ? C'est quelque chose de fantastique à réaliser. Et je pense que nous l'oublions souvent, que chaque fois que vous saisissez ce livre, vous saisissez la vérité. Quel héritage ! Et nous ne pouvons pas prendre cela pour acquis, et nous ne pouvons certainement pas nous permettre de laisser cela traîner. La première raison pour laquelle je crois que nous avons besoin d'apprendre la parole de Dieu est parce qu'elle est la source de la vérité. Jésus a dit « Ma parole est la clé. Si vous demeurez dans ma parole, Jean 8, 31, vous connaîtrez la vérité. » Et la vérité vous, quoi, affranchira. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Eh bien, tout simplement, comme le type qui se penche sur le problème de maths, dès qu'il trouve la solution, il est libre, il peut s'en aller, exactement comme le scientiste qui, dans son laboratoire, verse tous les trucs dans les tubes à essai. Il reste avec ça jusqu'à ce qu'il dise « Eureka, je l'ai trouvé », et il est libre. Et l'homme va chercher, et lutter, et tâtonner, et se battre pour la vérité, jusqu'à ce qu'il parvienne au niveau où il la trouve, et il est libre. Et je vais vous dire, une raison pour laquelle il faut étudier la Bible, c'est que la vérité s'y trouve. La vérité sur Dieu, la vérité sur l'homme, la vérité sur la vie, la vérité sur la mort, la vérité sur vous et moi, la vérité sur les hommes, les femmes, les enfants, la vérité sur les époux, les épouses, les papas, les mamans, la vérité sur les amis, les ennemis, la vérité sur comment vous devez vous comporter au travail, comment vous comporter à la maison, et même la vérité sur comment vous devriez manger et boire, comment vous devriez vivre, comment vous devriez penser. Toute la vérité s'y trouve. Quelle ressource ! Chérissez-la. Laissez-moi vous donner une seconde raison pour laquelle, je pense, vous aimerez étudier la Bible. Elle n'est pas seulement la source de la vérité, mais elle est la source du, puis-je employer ce terme, bonheur. Peut-être préférez-vous la joie. Ou alors vous aimez mieux la bénédiction, mais le bonheur l'explique bien. La vérité s'y trouve, et elle nous procure la joie. Laissez-moi vous montrer certaines choses dans les Écritures. Nous devons employer les Écritures pour exalter les Écritures. Dans le psaume 119:8, écoutez ceci. Les commandements de l'Éternel. Et il est uniquement question des principes de l'Écriture, son droit. Écoutez cette ligne. Ils réjouissent le cœur, N'est-ce pas une pensée formidable? Les commandements de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur, version Martin. Eh bien, quand on se met à étudier la Bible et qu'on apprend ces formidables vérités, on est tellement enthousiaste. Je vais vous dire, j'étudie beaucoup la Bible parce que je suis constamment en train d'enseigner et de prêcher la parole, et je l'étudie pour moi-même parce que je l'aime beaucoup, et je n'ai encore jamais expérimenté une quelconque diminution de l'euphorie que j'éprouve à la découverte d'une formidable vérité dans la parole de Dieu. Je vais vous dire, vous parlez de sensations fortes, et j'en ai vécu des sensations fortes au cours de ma vie. Je regarde en arrière, et toutes les choses merveilleuses et passionnantes qui me sont arrivées quand j'étais enfant, et ensuite tout au long de ma carrière sportive. Vous savez, tous les honneurs et toutes les choses que vous recevez dans l'athlétisme, et toutes les émotions qu'on éprouve en participant à une carrière collégiale, et toutes ces choses, et vous regardez à travers tout ce genre de choses et toute l'excitation ressentie. Et je vais vous dire quelque chose. La sensation la plus forte dans ma vie est la formidable euphorie qui vient à mon cœur lorsque je parviens à casser la coquille d'une vérité passionnante de la parole de Dieu. C'est une expérience exaltante et joyeuse. Le psaume 19:8 le dit. Les commandements de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. En fait, dans Proverbe 8:34, il est dit. Heureux l'homme qui m'écoute. Heureux l'homme qui m'écoute. Écoutez donc Luc 11:28. Et voici les paroles de Jésus. Luc 11:28. Heureux ou bénis ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Vous voulez être heureux? Mettez-la en pratique. Je trouve impressionnant le nombre de personnes qui savent ce que la Bible enseigne. Elles n'y obéissent pas. Elles se privent du bonheur. Vous savez, les gens me disent, le livre de l'Apocalypse est tellement difficile à comprendre. Vous savez, nous étudions vraiment toutes les autres choses, mais je n'ai pas envie d'aborder l'Apocalypse. Je ne veux pas m'embarquer dans ça. Eh bien, écoutez, même le livre de l'Apocalypse, qui semble si difficile, écoutez ce qui est dit dans 1:3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et le terme heureux signifie béni. Vous voulez être heureux? Lisez l'Apocalypse. Vous voulez être heureux? Lisez n'importe quelle portion de la parole de Dieu et répondez-y. Lorsque nous avons démarré, j'ai cité Jérémie 15:16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. 1 Jean 1:4. J'aime ce verset. Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit quoi? Parfaite. N'est-ce pas merveilleux? Une joie parfaite. Il y a une merveilleuse affirmation faite par notre Seigneur dans ce magnifique 15e chapitre de Jean, le chapitre dans lequel il se présente comme étant la vigne. Et dans le verset 11, il dit ceci. « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Oh, quelle formidable pensée! La joie qui découle de l'Écriture. À présent, j'aimerais illustrer cela. Permettez-moi cependant de l'illustrer à partir de Luc 24:24. Vous vous souvenez que Jésus était ressuscité d'entre les morts et il était sur le chemin d'Emmaüs avec deux de ses disciples qui ne savaient pas qui il était. Et tandis qu'ils avançaient, nous découvrons ceci. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes !» Et maintenant le Christ leur parle. Et pourtant, ils ne savent pas qui il est. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire? Et il soulève à présent le sujet du Christ. Ils ne savent pas qui il est, parce que nous nous rendons compte qu'après la résurrection, personne ne savait qui il était, jusqu'à ce qu'il le leur révèle. Cela fait qu'il se garde voilé en quelque sorte, et il se met à parler du Christ, de lui-même. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et là, il leur enseigne l'Écriture, lisant à partir de l'Écriture, leur citant l'Écriture, et ils écoutent. Quand ils arrivent, ils prennent leur repas, et tout à coup la lumière jaillit. Verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux, et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? N'est-ce pas génial? Lorsqu'il leur a ouvert les Écritures, leur cœur brûlait littéralement au-dedans d'eux. Vous voyez, il y a de la joie dans la parole de Dieu. il y a de la joie dans la vérité de Dieu. Maintenant, ça, c'est si vous obéissez. Si vous ne gardez pas ces paroles, il n'y a pas de joie. Et je vais me dépêcher d'ajouter que Dieu est miséricordieux. Il ne s'attend pas à ce que vous respectiez chaque petit principe sans jamais chanceler, mais il est plutôt question de notre attitude de cœur. Si votre cœur est engagé à obéir à la parole, il remplira votre vie de joie. Nous n'avons pas d'excuses pour ne pas reconnaître la vérité et pour ne pas mener des vies littéralement remplies d'euphorie et de joie. C'est juste là, disponible, dans la parole de Dieu. À présent, nous avons appris que nous devons étudier la Bible, parce qu'elle est la seule source de la vérité, et la plus grande source de joie. Nous avons un peu plus à dire à ce sujet, et 4 principes supplémentaires pour la prochaine fois.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.